plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonjour, bonjour, chers auditeurs de CFM. Tendez bien l'oreille. Aujourd'hui, je vous parlerai de rencontres du troisième type, des classiques du genre. D'abord, une rencontre rapprochée du 20 août 1955 dans une ferme de Kelly Hopkinsville dans le Kentucky. Puis un curieux contact sur une route déserte avec des gens venus d'ailleurs. C'est l'histoire étrange de Betty et de Barney Hill du New Hampshire. Bizarre, bizarre. Une rencontre rapprochée du troisième type, devenue également classique, est celle du 21 août 1955 à Kelly Hopkinsville, dans laquelle les humanoïdes tiennent le devant de la scène, l'OVNI lui-même n'étant mentionné qu'au passage. Ce fut par un pur hasard que j'eus connaissance de ce cas, car je n'avais pas été appelé en consultation à son sujet. Voilà ce que dit M. Alain Hinek qui a examiné à fond ce témoignage. Quelques mois après cet incident, je m'occupais de l'installation de 12 stations de repérage de satellites en divers points du globe et je n'avais pratiquement plus de temps à consacrer aux ovnis. Il se trouva cependant qu'un électronicien que j'avais engagé pour travailler sur les mécanismes d'horlogerie à quartz des chambres photographiques de Birkenhead pour la poursuite des satellites, se trouvait être Bud Ledwiss, qui, je l'appris par la suite, avait été ingénieur et annonceur à la station radiophonique WHOP d'Hopkinsville, Kentucky. Le matin qui suivit l'incident de Kelly, Ledwiss avait mené son enquête personnelle. C'est à lui que je dois un récit détaillé de toute l'affaire, ainsi que les croquis et les déclarations signées des témoins. Considéré en soi, c'est-à-dire hors du schéma général des observations d'OVNI, le cas de Kelly Hopkinsville semble absurde. Ouais, totalement délirant. Et offense le plus élémentaire à sens commun. Ce dernier, soit dit en passant, ne s'est d'ailleurs pas toujours révélé un guide sûr dans l'histoire des sciences. Toujours est-il que l'événement ne fut recensé que brièvement par le Livre bleu, qui n'enquêta que peu ou pas du tout à son sujet, et le catalogua comme on pouvait s'y attendre parmi les non-identifiés. C'était effectivement le moins qu'on puisse dire. Ledwiss interrogea personnellement les 7 témoins adultes et leur demanda à chacun de dessiner un portrait des occupants. Car ici, il s'agit d'une rencontre du troisième type. Au moyen de ses croquis, il établit alors un portrait robot que les témoins avalisèrent en y apposant leur signature. Il m'a très aimablement communiqué tout ce qui avait trait à son enquête, rapport, croquis, originaux, notes, et m'a autorisé à en faire état à mon gré. Ce classique ayant été longuement décrit ailleurs, je me contenterai de le résumer brièvement. Voilà l'histoire. Un des témoins avait vu un ovni conventionnel, du genre discoïde, atterrir dans un ravin près de la ferme de Sutton. En rentrant, il raconta son aventure. On se moqua gentiment de lui et personne n'y pensa plus. Une heure ne s'était pas écoulée que le chien se mit à aboyer violemment dans la cour. Deux des hommes de la maison allèrent jusqu'à la porte de derrière, pour voir ce qui se passait. Un petit homme lumineux, aux yeux énormes, les bras levés au-dessus de la tête comme si on le dévalisait, approchait lentement de la maison. Dans cette région, le niveau matériel des témoins et les contingences sociales font qu'on tire d'abord et on parle après. Les deux hommes ne manquèrent pas à la règle, l'un braquant un 22 long rifle et l'autre un fusil de chasse. Ils tirèrent ensuite, sur l'OVNOT, qui n'était qu'à 6 mètres d'eux. Les coups de feu résonnèrent, dirent-ils, exactement comme s'ils avaient tiré sur un seau. Ch'tong. Le visiteur eut un brusque sursaut et se perdit aussitôt dans la nuit. Peu après, un autre visiteur se montra à la fenêtre et fut pareillement accueilli à coups de fusil. L'écran grillagé qui protège la fenêtre porte encore la marque, la balle, la percée, de cette défense contre l'envahisseur. Les hommes sortirent alors pour voir s'ils avaient tué l'importun et comment le premier de la file s'était momentanément arrêté sous une petite avancée du toit, ce qui le suivait vers une main griffue, descendre jusqu'à toucher ses cheveux. Ouais, tout ça, c'est très inquiétant. Nouveau coup de feu, dirigé cette fois contre la créature sur le toit et contre une autre remarquée dans un arbre tout proche. Cette dernière fut apparemment touchée directement, mais elle flotta jusqu'au sol, manœuvre que l'on devait observer en d'autres occasions. Et décampa. Peu de choses démonte autant un fermier du Kentucky que l'inefficacité des armes à feu, et bientôt toute la famille s'était barricadée dans la maison. De temps en temps, les visiteurs se montraient de nouveau aux fenêtres. Environ 3 heures plus tard, la famille décida unanimement que le siège avait assez duré et les 11 occupants de la maison, s'empilant dans 2 voitures, foncèrent en ville pour avertir la police. Il était 11 heures du soir. Étant donné qu'il faut certainement une stimulation de taille pour qu'en plein milieu de la nuit, une famille de 11 personnes s'entasse dans 2 voitures, couvre à toute vitesse une 10 kilomètres et vienne demander l'aide de la police, on peut juger de la terreur des Sutton. Ils revinrent à la ferme accompagnés de policiers qui scrutèrent les lieux, braquèrent en tous sens leurs projecteurs, firent un raffut considérable, mais ne trouvèrent rien. Une fois la police partie, l'obscurité et le calme revenus, les créatures revinrent au dire général des témoins. Lewis, qui avait pensé aussitôt obtenir une description des petites créatures, a raconté. Quand j'y arrivais, à la station radiophonique, je fus accueilli unanimement par la question « As-tu vu les petits hommes verts ?» Je demandais des précisions et recueillis quelques vagues renseignements sur les événements de la nuit. Me souvenant d'un article que j'avais lu peu de temps auparavant dans un magazine et qui rapportait comment des artistes attachés à la police reconstruisent les traits d'un visage à partir des descriptions des témoins, je décidai d'éclaircir la situation. J'avais autrefois étudié le dessin et je pensais être en mesure de faire des croquis convenables. J'amenai avec moi un des agents de police afin d'avoir un témoin de mes actions qui puisse veiller à ce que, ni par mes propos ni par mes actes, je n'influe sur les dépositions des témoins. En dépit du glorieux branle-bas de la nuit précédente, tous les hommes de la ferme étaient partis vaquer à leurs occupations. Les femmes acceptèrent d'être interrogées. Les dessins ne sont précisés sans que j'intervienne de façon quelconque dans les déclarations des femmes. Elles étaient tout à fait sûres de ce qu'elles avaient vu ou non. Il me suffisait de suivre leurs indications quant aux formes du visage, des yeux, des mains, du corps. Même si je me contentais d'émettre l'ombre d'une supposition à propos de tel ou tel trait, elles me corrigeaient aussitôt. Très vite, l'apparition commença à prendre forme. Les yeux étaient ronds, comme des soucoupes, grands et écartés d'au moins 18 cm. Ils semblaient placés latéralement, à mi-hauteur de la tête. Le crâne était rond et complètement chauve au sommet. Nous en vîmes au corps. Personne ne pouvait affirmer s'il y avait ou non un cou, alors nous n'avons pas dessiné de cou. Selon les femmes, le corps était mince et tout droit, sans forme. Les bras étaient bizarres, presque 2 fois plus longs que les jambes. Les mains étaient énormes et massives. La chose qu'aucune d'elles ne put décrire, c'est le nez. J'essayais d'en dessiner un, mais elle n'était sûre de rien, alors je l'ai gommée. Après avoir questionné les femmes de la maisonnée pendant 3 heures, Ledwiss et son compagnon furent autorisés à revenir dans la soirée, lorsque les hommes seraient rentrés. Ils arrivèrent légèrement en avance, et lorsque les hommes revinrent, il y avait dans les deux sens une file de voitures longue d'au moins 800 mètres. Puis entrant en scène le chef incontesté de la famille, Lucky Sutton, qui pénétra dans la maison comme un ours. Il tourna les yeux vers la table où j'avais placé mon croquis. Il s'assit sans dire un mot. Le contempla et dit « Non, le visage est presque rond. Il ne se termine pas en pointe. » Nous entreprîmes aussitôt le dessin des hommes et nous guidant sur celui des femmes et en faisant les modifications qu'il nous indiquait, on ne s'accordait pas sur la bouche. Lucky demeurait intraitable. Il ne devait pas y avoir de bouche, ou alors tout au plus comme une ligne barrant le visage. Je m'adouai les témoins en traçant un trait d'une oreille à l'autre. Ces 7 personnes m'avaient fait des récits quasiment parallèles et décrit les créatures de façon à peu près identique. Or, 7 personnes qui auraient voulu inventer une histoire et fabriquer des descriptions aussi voisines n'auraient pu le faire sans se concerter préalablement pour décider précisément de ce qu'elles allaient raconter. Mais 3 des hommes étaient partis très tôt le matin pour Evansville et n'étaient pas revenus de toute la journée. Au demeurant, les interviews ne furent pas du genre « Pensez-vous qu'il y ressemblait à ça ?» Non, tous les 7 étaient affirmatifs quant à ce qu'ils avaient vu et aucun d'eux ne revint sur ce qu'ils avaient dit. Mais lorsque je les poussais dans leur retranchement, c'était invariable. Ce n'est d'ailleurs sûrement pas la formule qui convient en ce qui concerne Lucky, qui n'est pas homme à être poussé dans ses retranchements. Au fur et à mesure que l'histoire se répandait, les faits commençaient à être déformés en tous sens. C'est inévitable. Chacun, en relatant l'aventure, ajoutait à la description des créatures quelques traits de son cru. C'est pourquoi je suis heureux que nous ayons gagné les racontars de vitesse. Notre interview du matin constitua le premier rapport complet sur les événements de la nuit. Les femmes se montrèrent amicales et détendues, et rien ne vint nous déranger. La horde des curieux ne s'était pas encore ébranlée. Le soir de ce même jour, nous pûmes discuter calmement avec les hommes, dès leur retour, et sans qu'ils aient pu parler avec les femmes de ce qu'elles avaient rapporté au cours de l'entretien du matin. Je fus surtout frappé de leur sincérité à tous, hommes et femmes. Les protagonistes de cette aventure furent malheureusement vite assaillis par les importuns de tout poil, et particulièrement par les journalistes en mal de sensation. Et se refusèrent bientôt à tout entretien. On les comprend. Cependant, près d'un an après, Isabelle Davis, de New York, vint à titre privé à Kelly et reprit l'investigation. Cette femme discrète mais opiniâtre, qui compte parmi les enquêteurs d'OVNI les plus sincères et les plus dévoués que je connaisse, parvint à obtenir des témoins qui lui reviennent sur les événements de la nuit du 21 au 22 août et qu'ils en discutent en détail. Isabelle Davis a rédigé une relation complète de cette visite, document excellent qui vaudrait d'être publié et a été assez aimable pour m'en remettre un exemplaire. Pour le principal, ce récit concorde entièrement avec les premières investigations de Ledwiss. Considérés parallèlement, les deux récits nous restituent l'image d'un événement véritablement déconcertant et totalement inexplicable. 7 adultes et 4 enfants ont fourni des témoignages concordants sur les principaux points de l'incident. Les témoins n'étaient pas socialement en porte-à-faux, théorie avancée par le docteur Warren, laquelle d'ailleurs n'explicite pas plus cette observation que quantité d'autres. Warren soutient qu'un individu dont le statut social et économique ne coïncide pas avec ses capacités mentales et sa formation, par exemple une personne peu instruite occupant une position élevée ou vice-versa, est plus susceptible qu'un autre de signaler une observation d'OVNI. Je ne me serais pas autant intéressé à l'incident de Kelly Hopkinsville s'il ne s'était trouvé que je connais les principaux enquêteurs c'est-à-dire Ledwiss et Davis. Et plus particulièrement Ledwiss, puisque pendant près de 2 ans, il a travaillé sous ma direction au programme sur le repérage des satellites. Mais il y a une autre raison, encore plus importante. Les humanoïdes constituent en eux-mêmes un prototype qui a traversé les âges et qui figurait déjà, comme l'a montré de façon si convaincante M. Vallée dans Passepartout Magonia, dans les mythes et les légendes propres à diverses civilisations. Ça, c'est très intéressant. Il est extrêmement improbable que les Sutones, qui ne possédaient ni téléphone, ni radio, ni télévision, nous sommes en 1955, dans la campagne profonde, ni livres, ni même beaucoup de meubles, aient été très avertis des questions d'OVNI et aient pu savoir qu'à de nombreuses reprises, dans le passé, avaient été décrites des créatures semblables à celles dont ils ont aidé à dresser un portrait. Or, ce dernier offre une ressemblance frappante avec les petits hommes dont parlaient de nombreuses cultures. Cela ne justifie pas, bien entendu, qu'il faille en conclure pour autant que les créatures de Kelly furent purement imaginaires, ni inversement que la réalité des humanoïdes fut à l'origine des légendes antiques. Sous ce rapport, comme sous beaucoup d'autres, l'étude du phénomène OVNI n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. Toutefois, c'est quand même assez intéressant. Pour les Sutones, en tout cas, comme d'ailleurs pour tant d'autres, la réalité de leur expérience ne faisait pas de question. D'ailleurs, Isabelle Davis le souligne. Les Sutones s'en sont toujours tenus à leur histoire. Obstinément, coléreusement, ils n'ont cessé d'affirmer qu'ils disaient la vérité. Pas plus les adultes que les enfants n'ont, à aucun moment, laissé entendre qu'ils auraient pu mentir ou avoir été dans l'erreur. Ni à l'extérieur, ni dans le privé. Ils ne se sont jamais désavoués, même sur des points mineurs. Isabelle Davis fait remarquer de plus qu'il n'y a pas eu dans les propos des Sutones cette rationalisation protectrice à laquelle recourent souvent les observateurs d'OVNI, qui, bien que personnellement convaincus, essaient de se concilier les bonnes grâces de leurs semblables en disant par exemple « Bien sûr, ce devait être un avion. Je peux m'être trompé, avec des rires embarrassés, des mines pseudo-contrites. » Non, rien de tel. Selon elle, les Sutones ne semble à aucun moment avoir été tenté de faire marche arrière afin d'être à nouveau, entre guillemets, bien vu de leurs semblables. Leur entêtement, rien moins que payant, à ne pas céder un pouce de terrain, ne prouve pas, bien sûr, la véracité de cette histoire, mais nous éclaire un peu sur leur caractère. Et avouez-le, chers auditeurs, devant une telle authenticité de témoignage. On ne peut que rester que pantois. Quant aux créatures, bien sûr, elles nous rappellent certains contes mythiques du passé. C'est tout à fait exceptionnel. Voilà donc la première histoire du troisième type. Nous faisons une pause musicale et je vous en raconterai une seconde tout aussi intéressante.
The warm wind with a high tide on the south side of the hill. When a young girl went a walking, and I followed with the wind. Good day to you, my fine young lady, with your lips so sweetly full. May I help you comb your long hair, sweep it from that brow so cool. Sword in the deep. If you don't ride with me, why the devil's free? I ride with somebody else. Well, I'm a man when I'm feeling the urge to stay. You all find things and more. I'm riding with a cabbie. I steal your soul into the deep. If you don't ride with me, why the devil's free?
say goodbye to all your dear kin, for they hate to see you go. In your young prime, to this place of mine, in a still dark far below. Upright with a canopy, I steal your soul to the deep. If you don't ride with me, why the devil's free? I ride with somebody else. Upright with a canopy, I steal your soul to the deep.
Vous êtes bien à l'écoute de CFM Radio et vous écoutez l'émission Au plus profond des ondes, histoire bizarre et étrange, faits divers. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de rencontres du troisième type. Alors, je vais maintenant présenter un cas de contact. Vous savez, parfois, certains gens sont, d'après leur témoignage, contactés par des entités venues d'ailleurs. Non pas que je souscris à la théorie des contacts, mais au contraire parce qu'ils s'en distinguent d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun substrat pseudo-religieux, hein, parce que, bon, les sectes ufologiques, ça existe. Aucune indication d'un culte des ovnis, aucun message cosmique platement verbeux. De plus, il a fait l'objet d'une étude particulièrement approfondie, ainsi que d'un ouvrage dû à John Fuller, « Le voyage interrompu ». Voilà, je vais vous parler de l'histoire de Betty et de Barney Hill. Cette aventure ne répond pas, selon moi, au schéma de la rencontre rapprochée du troisième type et ne peut donc concourir à la construction du prototype de cette catégorie. Alors, si je l'ai cependant retenue ici, c'est parce qu'elle contraste tout autant avec les habituelles histoires de contact qu'avec les rencontres rapprochées du troisième type. C'est donc une histoire assez singulière. De plus, cet événement a reçu une large publicité en son temps et a suscité beaucoup d'intérêt. Il faut reconnaître qu'il y avait de quoi. Betty et Barney Hill, couple interracial habitant le New Hampshire, placés isolément sous hypnose par un psychiatre de Boston, le docteur Benjamin Simon, relatèrent au cours de plusieurs séances leur enlèvement à bord d'un vaisseau spatial. Le livre de Fuller retrace l'affaire de façon très détaillée, mais il me faut cependant la résumer ici brièvement. Voilà l'histoire. Revenant de leurs vacances au Canada, Betty et Barney Hill, qui roulaient tard dans la nuit sur une route déserte, virent descendre un ovni. Celui-ci, ayant finalement atterri, bloqua la route devant eux. Ils furent abordés par des humanoïdes. Quelques heures plus tard, exactement 2 heures plus tard, les Hills se retrouvent sur le chemin du retour, mais à 55 kilomètres de là, et sans aucun souvenir de ce qui s'était passé durant ce laps de temps. Cette amnésie persistant, ils commencèrent à éprouver divers troubles physiques et psychiques, et aboutirent finalement chez le docteur Simon, célèbre pour ses guérisons d'amnésie. Ayant été mis à plusieurs reprises isolément, en état d'hypnose, chacun fit de son côté un récit des faits. Leurs versions respectives concordaient de façon assez précise, bien que ni l'un ni l'autre n'ait su à l'époque ce qu'avait évoqué son conjoint. Ils racontèrent donc qu'emmenés séparément à bord de l'engin, ils avaient été bien traités par les occupants, plus ou moins à la façon dont les humains traitent les animaux de laboratoire, puis relâchés après injonction hypnotique d'oublier totalement leur expérience. D'où sans doute leur perte de mémoire que seul pouvait contrebattre un autre hypnotisme. Les expériences médicales faites sur leur personne consistèrent, selon Hill, à insérer une aiguille dans le nombril de Betty et à recueillir des rognures d'ongles et de barbe. Au cours d'un incident amusant, les fausses dents de Barney furent retirées. Une tentative semblable faite sur la denture de Betty, qui ne doit rien à l'artifice, échoua lamentablement. Peu après la publication du livre de Fuller, nous fûmes invités ensemble à dîner avec les Hill chez le docteur Simon, qui habite aux environs de Boston. Nous étions convenus qu'avant le repas, le docteur Simon plongerait les Hill dans une transe hypnotique et me laisserait alors les questionner. L'expérience me fit une forte impression, car au fur et à mesure que Barney décrivait l'enlèvement à bord de l'engin, son agitation grandissait et le docteur Simon avait les plus grandes difficultés à le calmer. Nous sentîmes bien à cette occasion combien l'expérience des îles avait été bouleversante. Mais tout bien considéré, cette session d'une heure et demie ne livra finalement que d'assez minces informations. Une telle défaillance doit sans doute être imputée à mon inexpérience à formuler les questions qu'il convient de poser à une personne sous hypnose. Sauf dans les moments où l'émotion les submergeait, l'un et l'autre s'exprimaient de façon hachée. Ils répondaient parfois de façon incertaine à des questions directes, ce qui me rappelait les difficultés que l'on rencontre lorsque l'on doit interroger de grands malades. Il y avait de longues pauses. Je n'ai cependant jamais eu l'impression qu'ils éludaient délibérément de répondre. Au cours du dîner qui suivit, les îles se révélèrent déserts, pleins d'esprit, de charme, leur faculté mentale et leur lucidité ne pouvaient être mises en doute. Point important. Voici quelques extraits de cette séance d'hypnose qui témoignent à la fois de la violence du choc émotionnel qui fut le leur et de leur très évidente sincérité. Voici donc l'entretien. Le docteur Simon. D'accord, et maintenant revenons à la fin de votre excursion aux chutes du Niagara, lorsque sur la route du retour, vous avez eu cette expérience avec l'objet volant non identifié. Qu'en pensez-vous maintenant ? Avez-vous été enlevé ou non ? Monsieur Barney. Je pense que j'ai été enlevé. Docteur Simon. Avez-vous été enlevé ? Monsieur Barney. Oui. Mais je ne veux pas croire que j'ai été enlevé. Alors je dis simplement que je le pense, parce que, comme cela, je suis plus à l'aise pour accepter quelque chose dont je ne veux pas accepter qu'elle se soit passée. Le docteur Simon. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre à l'aise, Monsieur Barney? De dire que je le pense. Docteur Simon. Je vois. Pourquoi êtes-vous mal à l'aise à ce propos, Monsieur Barney? Parce que c'est une histoire tellement invraisemblable. Si quelqu'un m'avait raconté que cela lui était arrivé, je ne l'aurais pas cru, et je déteste être accusé d'avoir fait quelque chose lorsque je sais parfaitement que je ne l'ai pas fait. Le docteur Simon. De quoi êtes-vous accusé? Monsieur Barney. Je ne suis pas cru, alors que j'ai fait quelque chose et que je sais que je l'ai fait. Docteur Simon. Et si vous aviez simplement capté le rêve de Betty? Monsieur Barney, j'aimerais bien voir ça. Docteur Simon, vous aimeriez bien voir ça, peut-être est-ce vrai? Barney, non! Criant. Je ne voulais pas qu'il place ce truc sur moi. Je ne voulais pas qu'il me touche. Docteur Simon, d'accord, d'accord. Mais il ne vous touche pas à présent. Il ne vous touche pas, n'en parlons plus. À présent, le docteur Hinek va vous parler, et Monsieur Fuller pourra aussi vous parler. Pendant un moment, vous ferez tous les deux ce qu'ils vous diront de faire, comme si cela venait de moi. Vous répondrez à toutes les questions qu'ils vous poseront et vous exécuterez toutes les instructions venant de l'un de nous trois tant que durera la transe. Mais après cela, vous n'obéirez plus qu'à moi, seul. Le docteur Hinek. Barney, vous allez vous souvenir clairement de tout et vous allez me dire ce qui est en train de se passer. Vous venez juste d'entendre le bip-bip-bip. Je veux que vous me disiez à quoi ce bruit ressemblait, et puis chacun de vous va revivre ce qui s'est passé, me dire ce qui est en train de se passer pendant que vous roulez. Soudain, Barney reprend le récit, apparemment au moment où ils se sont trouvés en face des humanoïdes. Monsieur Barney. Betty, c'est là. C'est là, Betty. Mon Dieu, mais c'est dingue. Je traverse un pont. Je ne suis pas sur la Nationale 3. Oh là là, oh là là, Barney halète. Oh, je ne peux pas y croire. Il y a des hommes sur la route. Je n'y crois pas. Je ne veux pas avancer. Il ne peut rien y avoir là. C'est la Lune. Docteur Simon, continuez, Barney. Vous vous souvenez clairement de tout. Tout est clair. Monsieur Barney, je descends de voiture et je quitte la route pour entrer dans les bois. Il y a une lueur orange. Il y a quelque chose là. Oh, si seulement j'avais mon fusil. Si seulement j'avais mon fusil. Nerveusement et d'un ton désespéré. Nous montons la rampe. Oh, ce que je voudrais foncer dedans, mais je ne peux pas. Je voudrais les frapper, mais je ne peux pas. Je bouillonne, il faut que je cogne, il faut que je cogne. Mes pieds butent et je suis dans un corridor. Je ne veux pas avancer. Je ne sais pas où est Betty. On ne m'a pas fait de mal. Je ne cognerai pas le premier, mais si on me fait du mal, je cogne. Je suis engourdi. Je n'ai plus de sensibilité dans les doigts. Mes jambes sont engourdies. Je suis sur une table. Le docteur Simon. Tout va bien. Vous pouvez vous arrêter là. Vous êtes sur la table, mais vous êtes calme et détendu. Et maintenant, vous vous reposez jusqu'à ce que je dise « Écoutez, Barney, pendant un moment, vous n'allez rien entendre de ce que je dis. Betty, qu'est-ce qui se passe ?» Betty, nous roulons. Barney freine. Les freins crissent. Il braque sec à gauche. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Nous allons nous perdre dans les bois. Nous obliquons dans un virage. Elle s'arrête. Barney essaie de la faire démarrer. Elle ne démarre pas. Dans les bois maintenant, ils viennent vers nous. C'est à ce moment-là que j'ai peur. Il faut que je sorte de la voiture et que je cours me cacher dans les bois. Docteur Simon, arrêtez-vous, Betty. Arrêtez-vous un peu. Vous ne voulez pas entendre ce que je vais dire. Il y a alors un passage à vide durant lequel Barney crie éperdument et le docteur Simon parvient difficilement à le calmer. Finalement, il s'adresse de nouveau à Betty. Le docteur Simon. Betty, vous pouvez m'entendre maintenant. Betty, oui. Docteur Simon, continuez. Betty, je vais ouvrir la porte de la voiture et puis courir me cacher dans les bois. Docteur Hinek, aviez-vous jamais vu quelque chose qui ressemble à cela? Betty, non. Docteur Hinek, est-ce que la lune l'éclairait? Pouviez-vous voir la lune en même temps? Betty, il y avait un grand clair de lune. Il ne faisait pas aussi clair qu'en plein jour, mais je pouvais voir. C'était par terre. Il y avait une sorte de rebord autour de l'arête. Le docteur Hinek, reposait-il sur des béquilles ou à plat sur le sol? Betty, le bord était un peu surélevé par rapport au sol, il y avait une rampe qui descendait. Docteur Hinek, il était grand comment, Betty? Comparez-le à quelque chose que vous connaissez. Betty, au point de vue de la taille. Betty, j'essayais de penser. Docteur Hinek, un wagon de chemin de fer? Était-ce plus gros qu'un wagon de chemin de fer ou plus petit? Betty, je ne peux pas me représenter la taille d'un wagon de chemin de fer. Je dirais que s'il s'était posé là, dans la rue, voyons, il irait depuis le coin de la façade jusqu'au-delà du garage. Le docteur Hinek, à quoi pensiez-vous en vous en rapprochant? Betty, si possible, à sortir de cette nom de Dieu de situation. Le docteur Hinek, et pourquoi n'était-ce pas possible? Betty, je n'y arrivais pas. Leur homme était à côté de moi. Tout ce qui me venait, c'était « Barney, Barney, réveille-toi ». Il m'a demandé s'il s'appelait Barney. Je ne lui ai pas répondu parce que je trouvais que ça ne le regardait pas. Et puis quand nous sommes arrivés, j'ai vu cette chose. Je savais qu'ils allaient nous forcer à y monter, mais je ne voulais pas. Je n'arrêtais pas de leur dire que je ne monterais pas, que je ne voulais pas monter. Et ils me disaient d'avancer que tout ce qu'ils voulaient, c'était procéder à quelques expériences simples, que dès qu'ils auraient terminé, je regagnerais la voiture. Docteur Hinek, vous ont-ils dit d'où ils venaient? Betty, non. Docteur Hinek, quelle sorte de son émettait-il? Betty, c'était comme des mots, comme le son des mots. Docteur Hinek, des mots anglais? Betty, non. Docteur Hinek, mais vous les compreniez? Betty, oui. Docteur Hinek, comment expliquez-vous cela? Betty, c'était tout ce que je peux dire, comme quand on apprend le français. Docteur Hinek, quand on apprend le français? Betty, ben oui. Docteur Hinek, vous pensez que c'était du français? Betty, non, mais c'était comme quand on apprend le français. Quand on entend pour la première fois un mot en français, on y pense en anglais. Docteur Hinek, oui, je comprends. Ainsi, vous avez entendu ces sons dans une langue quelconque et vous les avez compris comme s'ils étaient de l'anglais, c'est bien ça? Le docteur Simon toucha la tête de Betty. À présent, je touche votre tête et vous allez vous sentir reposé et détendu. et vous n'entendrez plus rien jusqu'à ce que je vous touche de nouveau la tête. Bernet, vous pouvez m'entendre à présent. Vous vous sentez bien. Détendu. Vous m'avez dit que vous étiez entré dans l'appareil, c'est bien ça. Bernet. Oui. Docteur Simon. Il vous avait amené à l'intérieur et vous avait mis sur une table. Monsieur Bernet. Oui. Docteur Simon. Et ils vous ont parlé, n'est-ce pas? Bernet. Oui. Docteur Simon, dites-nous, comment il parlait? Répondez au docteur Hinnec là-dessus. Le docteur Hinnec. Bernet, les avez-vous vus ouvrir la bouche? Et dans ce cas, l'ouvrait-il beaucoup? Bernet, il remuait la bouche, je l'ai vu. Docteur Hinnec, essayez de me dire ce qu'étaient les sons ou s'ils correspondaient à quoi que ce soit que vous connaissez. Est-ce que vous pourriez penser à un animal qui émet des sons semblables? Bernet, non. Docteur Hinnec, à quoi ressemblaient les sons? Alors Bernet fait des « oh, oh, oh » chevrotants. Docteur Hinnec, que pensiez-vous d'eux et même pensiez-vous simplement à eux? Bernet, j'ai pensé que si seulement je pouvais leur cogner dessus avec mes poings. Docteur Hinnec, c'était pendant que vous étiez sur la table? Bernet, ah oui, je voulais me battre, je ne savais pas où était Betty, et chaque fois que j'essayais de bouger ou de me débattre, cette lumière forte dans ma tête me calmait. Le cas des Hill est évidemment tout à fait atypique, puisque la majeure partie de leur témoignage fut obtenue sous hypnose. Leur histoire démarre comme beaucoup d'autres. Une lumière dans le ciel, qui en se rapprochant croit en taille en luminosité, l'atterrissage et l'effroi qui s'empare des témoins. Mais l'enlèvement, les expérimentations et tout le déroulement de l'aventure jusqu'au moment où ils se sont retrouvés sur la route à 55 km de là, ainsi que leur perte totale de mémoire quant à ces 2 heures de leur existence, n'offrent absolument rien de commun avec les autres cas. Si nous faisons abstraction du récit obtenu sous hypnose, la première partie de l'aventure est conforme au schéma habituel. Par contre, toute la partie atypique ne peut être étudiée qu'en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'événement exceptionnel. Il faudra donc attendre qu'il survienne, s'il en survienne, d'autres récits de rencontres rapprochées obtenues sous hypnose, et que ceci soit étudié. Il ne faut pas oublier que les Hill ont attendu plusieurs années avant de se faire soigner, pour essayer alors de déterminer si celle-ci présente également un schéma particulier. Et qu'en est-il des occupants eux-mêmes? That is a question. Il semble que 2 tailles leur soient généralement attribuées, grandes et petites, avec une prédominance de la première. Les humanoïdes d'Hopkinsville et beaucoup de ceux dont parle le Passport to Magonia ont un aspect assez semblable à celui des petits hommes légendaires. Vous savez, les elfes, les lutins, ce genre de créatures mythiques. Un crâne volumineux, les pieds fuselés et généralement la tête plantée directement sur les épaules avec à peine une amorce de cou sont les traits les plus souvent cités. Les grands humanoïdes sont décrits comme étant de taille égale ou légèrement supérieure à celle d'un homme et généralement bien proportionnés. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils sont beaux. La taille des plus petits se situe aux alentours de 1,10 m. Mais notre propos n'est pas d'établir une classification des humanoïdes. Pour ça, nous renvoyons pour cette question le lecteur aux humanoïdes de Bowen et au Passport ou Magonia de Valley. Que peut-on finalement dégager des rencontres rapprochées du troisième type? Qu'elles ne diffèrent pas fondamentalement des autres rencontres rapprochées, si ce n'est que des occupants y sont signalés et que les observateurs qui les signalent ont généralement une formation technique et un vernis moindre que dans les 2 catégories précédentes. Il ne nous appartient pas d'en inférer que les techniciens supérieurs ou les citoyens en vue ne peuvent être témoins d'une rencontre rapprochée du troisième type. Il se passe simplement que, à défaut de se faire connaître, ils n'existent pas pour nous. Les circonstances ont voulu que, durant mes 20 années d'activité, je n'ai que de rares contacts personnels avec les cas qui constituent cette catégorie. C'est la principale raison qui me dicte de n'étudier le problème des ovnis qu'en fonction des prototypes des 5 premières catégories, c'est-à-dire les lumières nocturnes, les disques, diurnes, radars optiques et rencontres rapprochées du premier et du second type. Ayant eu pour celle-ci directement affaire aux témoins, je les maîtrise beaucoup mieux. Je laisserai donc à chaque lecteur le soin de déterminer par lui-même la place qu'il assigne aux rencontres rapprochées du troisième type, à l'intérieur du problème général des ovnis, sans perdre cependant de vue qu'il demeure à découvrir si des cas où figurent des humanoïdes n'en constituent pas finalement la clé. Fin de citation. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous ? Ouais, on peut toujours ranger ça au rayon loufoquerie, bien entendu. Quoi qu'il en soit, on ne peut douter de la sincérité des témoignages. Là aussi, ça fait interroger. Quant à moi, bien sûr, j'ai ma petite idée, mais je ne vous la dirai pas. Et je vous dis à la semaine prochaine.
To begin, tell me that I'm a hero. Promise me all of your violent dreams. Light up your body with anger. Now, with a sudden world, it's time to destroy all this evil. Now, when I give a word, get ready to fight for your freedom. For you know we are right. We must strike at the lies that are spread like disease to all minds. Soon we'll have power, every soldier will rest, and we'll spread out our kindness to all who our love now deserve. Some of you are going to die, not us of course, in our freedom, but I shall provide. You must kill all, must die with their children. Carry their heads to the palace of old. Hang them high, let the blood flow. Now in the sunny world, break all the chains around us. Now the crusade has begun. Give us a land of the heroes. Now stand up and fight, for you know we are right. We must strike at the lies that are spread like disease to our minds. We'll have power, every soldier will rest, and we'll spread out our kindness to all who our love now deserve. Some of you are going to die, not us of course, the freedom that I shall provide.
Chips cashed in, keep trucking like the doodah man. Together, more or less in line, just keep trucking on, on, on.
Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings.
Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be.
You meet on the streets because true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone.
Chugging like the doodah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. Plus
busted down on Bourbon Street. Sit up like a bowling pin, knocked down against the wearing thin. It just won't let you be.
Sick of hanging around, you like a travel. Get tired of traveling, you wanna settle down. I guess I can't revoke your soul for trying. Get out of the door, light out and look all around.
Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Occurs to me what a long, strange trip it's been. Trucking, I'm going home. Whoa, whoa, baby, back where I belong. Back home, sit down and patch my bones and get back trucking. I'm home.